Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale del Paese in questo mercoledì 27 di maggio. Un grand bonjour à vous tous, bienvenue sur Radio Corsica Internazionale sur Télé Paese. Cioè, aujourd'hui on va fêter les Augustins. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur fêter une très grande fête.
Bonjour, salut à tous.
All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
Si vous en prie.
Voilà donc, en ce mercredi 27 mai, aujourd'hui je ne me trompe pas de date, tiens. Voilà, des matins comme ça arrive, hein. Je sais plus ce que je vous ai dit hier comme date. Bon, tiens, de quoi on va parler aujourd'hui? D'abord la météo avec Philippe Jam qui s'installe. On va revenir sur Histoire en mai, hein, avec des invités. On va retrouver Lisa Allard qui sera avec nous pour nous parler de littérature, et puis bien sûr l'horoscope. Nous aurons aussi les pronostics hippiques. Mais on débute avec la météo, voir un tout petit peu les folies du thermomètre de ce jour.
Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est encore une chaude journée qui nous attend ce mercredi avec beaucoup de soleil, un peu de vent, notamment sur la pointe du Cap Corse ou encore dans les Bouches de Bonifacio, un bon petit vent d'ouest qui va ventiler un petit peu l'atmosphère, les températures maximales bien au-dessus des normales de saison, puisqu'elles seront comprises entre 26 et 31 degrés en général, 21 degrés sur le relief. Un incendie s'est déclaré hier matin dans un restaurant de Bonifacio, ne causant que peu de dégâts. Toutefois, un homme incommodé par les fumées a dû être hospitalisé à la clinique de Porto Vecchio. Selon le parquet d'Ajaccio, l'origine de l'incendie est accidentelle. Il serait parti d'une friteuse. Après qu'un homme de 30 ans est décédé des suites de plusieurs coups de couteau à Calvi suite à une altercation, le procureur de la République de Bastia a ouvert une enquête pour homicide volontaire. La victime était un saisonnier originaire d'Alsace mais vivant à Marseille. Un suspect d'une trentaine d'années, saisonnier lui aussi mais dans un autre restaurant, a été placé en garde à vue. Le tribunal correctionnel de Bastia jugeait hier en comparution immédiate dans deux affaires distinctes deux hommes suspectés de vol à l'arraché à Bastia. À un ressortissant marocain de 29 ans, il était reproché d'avoir volé deux paquets de cigarettes dans un bureau de tabac du quartier de Montezor dans les quartiers sud de Bastia, puis de vol à l'arraché d'un téléphone. Il avait été interpellé peu après par la police. Il a été condamné à 30 mois de prison avec maintien en détention et interdiction de porter ou de détenir une arme pendant 5 ans, interdiction de territoire français pendant 5 ans également. Le second, Daoud Boulaya, ressortissant algérien de 33 ans, avait lui arraché un sac à main et un collier à une octogénaire, la faisant tomber par terre. Il a été condamné à 4 ans de prison pour tentative de vol avec violence aggravée par la circonstance de la particulière vulnérabilité de la victime et 10 ans d'interdiction de territoire français. Le verdict est tombé dans le dossier d'une tentative d'extorsion avec armes à Porto Vecchio en 2020. La cour d'appel de Bastia a acquitté les trois prévenus des faits de tentative d'extorsion avec armes. Toutefois, Jean-François Mattei a été condamné à 3 ans de prison pour détention d'une fausse carte d'identité et Juan Carlo Henry a été condamné à 7 ans de prison pour détention non autorisée d'une arme et de faux papiers. Enfin, Marie-Amélie Buat a été relaxée en première instance. Il n'avait pas été reconnu coupable de tentative d'extorsion avec arme et avait été condamné à 12 mois et 5 ans de prison. Les présidents des fédérations régionales des chasseurs et des deux fédérations départementales des chasseurs de Corse s'interrogent sur les conséquences du projet de construction d'un parc éolien non loin du Cap Corse par une société italienne. Il pourrait, ce projet, avoir des conséquences sur la migration des oiseaux. Les 48 éoliennes se situeraient en effet dans un axe de migration très fréquenté par l'avifaune entre la pointe nord du Cap Corse et les environs de La Spezia, entre Ligurie et Toscane. Les présidents s'inquiètent également des nuisances dans le domaine avifaunistique et les importantes populations d'oiseaux du parc marin du Cap Corse qui n'est pas loin. Les fédérations des chasseurs de Haute-Corse et de Corse du Sud ainsi que la fédération régionale appellent tous les chasseurs à se mobiliser et donc de rester très vigilants sur ce projet qui ne devait pas apporter les garanties nécessaires. des habitants du quartier Terranova à Bastia, regroupés au sein de l'Asuchu Campa in Terranova, appellent à un rassemblement festif vendredi à 18h30, place Guasco, au cœur de la citadelle de Bastia. La prédation des espaces publics n'est pas une fatalité, déclare l'association qui, pour protester contre l'extension des terrasses de bars et de restaurants de la place, organise ce rassemblement festif et citoyen pour, je cite, célébrer les places et les espaces publics et leur libre usage par les habitants. L'association demande au public de venir le dire haut et fort avec une chaise.
Merci Philippe pour les infos et pour la météo. On vous retrouve avec les invités dans un petit moment. Comme ça, vous parlez un peu de votre petite balade avec Histoire en mai. On se fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour faire un petit tour de côté Strasbourg, de côté de Caen. Ce sont les pronostics du jour avec Rémi.
Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Strasbourg pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 8, Mikis, qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons à la réunion de Caen, dans la troisième, le 9, Narek devrait l'emporter, tout comme dans la septième, le numéro 12, Macao de Rêve d'Or. Bon jeu à tous.
Pronostic hippique, donc, bien noté pour vous. Bien, si vous voulez voir directement des belles courses ce week-end, c'est à Casator. Sur l'hippodrome de Bigouille, donc à Casator, à partir de 14h. On se fait un petit horoscope pour poursuivre cette matinale.
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez être efficaces, vous allez être dans l'action et ça va réussir, vous allez avoir des résultats et vous allez être content de votre journée. Les taureaux, vous allez avoir envie de passer du temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez, que ce soit la famille ou les amis. En tout cas, entourez-vous de justement de toutes ces belles personnes qui font partie de votre vie. Les gémeaux, il y a certaines actions qui vont être décisives et qui vont grandement vous faire avancer. Sur un projet, sur votre vie perso, sur votre vie sentimentale. En tout cas, vous êtes en pleine transformation et ça, c'est cool. Les cancers, il y a un choix qui est compliqué à faire et qui va certainement vous prendre la tête et le cœur. Ça ne va pas être évident, mais il faudra tout de même faire un choix. Essayez de faire au mieux selon ce que la vie vous propose. Les lions, séparation, rancune, peut-être certaines histoires avec des ex ou une situation qui se termine ou qui rencontre des difficultés. Prenez du recul, courage. Les vierges, on peut dire en tout cas que l'amour sera dans l'air. Vous pouvez très bien vous attendre à de belles rencontres sentimentales ou à des moments très très agréables avec la personne que vous aimez. Les balances, vous pourriez vous sentir assez perturbé, fatigué, stressé, mais ce n'est pas pour autant que vous allez le partager avec les gens autour de vous. Les scorpions, vous avez peut-être un petit peu de mal à vous sentir ancré, à vous sentir sécurisé, parce que vos pensées sont assez floues, ça arrive par moments, essayez de peut-être prendre des notes, prendre un peu de recul pour y voir un peu de clarté dans votre situation. Les sagittaires, il y a un problème. Un blocage, quelque chose qui vous prend grandement la tête et vous auriez vraiment besoin de vous changer un petit peu les idées. Ça vous ferait le plus grand bien du monde. Les capricornes, on peut dire que les événements qui arrivent à vous aujourd'hui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses par rapport à votre personne. Peut-être que vous sortez d'une période un peu compliquée et que du coup, enfin, vous avez un peu de soulagement dans tout ça. Les Verseaux, il peut y avoir certaines communications qui vont ramener des souvenirs un peu du passé qui peuvent être bénéfiques ou plus désagréables. Il va falloir faire preuve d'acceptation, quel que soit ce qui vient à vous au niveau des communications. En tout cas, des petits comebacks du passé peuvent éveiller des bons comme de mauvais souvenirs. Prenez du recul, acceptez ce qui est. Et enfin, les poissons, vous n'allez pas vous sentir forcément très heureux, dans beaucoup de joie et de gaieté. Vous allez peut-être même vous sentir simplement morose. Vous n'aurez pas le moral. Il y a des moments comme ça, ça arrive. Reposez-vous et prenez soin de vous. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Merci Paxi. Elisa Alari qui est avec nous, avec la littérature du jour. Et elle va nous parler de cet ouvrage de Didier Grassi.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique. Alors aujourd'hui, en ce mois de mai, ma chronique est dédiée à un ouvrage, à un livre témoignage qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est le livre de Didier Grassi, Tourquine, Bianc, Nair, mon 5 mai 1992, témoignage d'un vécu et d'un combat. Alors c'est un ouvrage paru en avril 2026. Pour débuter, j'avais envie de vous lire la quatrième de couverture. Le 5 mai 1992, à 20h30, la tribune nord de Fouriane s'effondrait et nos vies basculaient. J'étais là, blessée, marquée, devenue malgré moi un survivant. Ce mot ne dit pas les nuits, le silence, le poids des absents. Écrire aujourd'hui, c'est refuser l'oubli. C'est honorer ceux qui ne sont plus là, transmettre aux plus jeunes ce devoir de mémoire et rappeler que le 5 mai n'est pas une date ordinaire. Fouriane Maipiu. Le 5 mai 1992 est la date d'une tragédie qui a plongé dans l'horreur la Corse et le monde du football. Ce jour-là, le Sporting Club de Bastia accueille l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Coupe de France au stade Armand Cesari. À 20h20 exactement, la tribune nord provisoire montée en urgence pour augmenter la capacité d'accueil s'effondre. Le bilan est extrêmement lourd, 19 morts, plus de 2300 blessés et des centaines de vies brisées. J'ai choisi ce témoignage parce que c'est le récit brut et nécessaire, le récit de Didier Grassi qui a vécu dans sa chair, dans son esprit, dans son âme, la catastrophe de Fouriane. C'est le récit d'un trauma individuel, mais c'est aussi le récit d'un trauma collectif. Didier Grassi y raconte avec beaucoup de courage, je dois dire, et sans phare, le trauma, la blessure, mais aussi la culpabilité. La culpabilité qui ronge, les victimes qui survivent, la honte muette et lourde que le psychiatre Richard Reichmann, qui a rédigé d'ailleurs une très belle postface à l'ouvrage, définit de la manière suivante, le syndrome du survivant. Alors, je reprends les mots de Didier Grassi. Je fais partie de ceux qu'on a appelés quelquefois les survivants. Un mot qui dit tout et ne dit rien. Car survivre, ce n'est pas simplement sortir vivant d'un drame. C'est porter ensuite, jour après jour, le poids de l'instant où tout a basculé. La mise en mots est une forme de réparation. Raconter le drame, les blessures physiques et psychiques, mais raconter également et surtout une force qui abat les montagnes, l'histoire d'une résilience collective. C'est pour Didier Grassi et pour le collectif des victimes du 5 mai 1992 une façon d'honorer celles et ceux qui ont perdu la vie et qui ont été brisés ce soir-là. C'est le devoir de transmission, le devoir de mémoire, le récit d'une lutte longue, difficile, parfois incomprise et méprisée, ignorée par les autorités. C'est une lutte éminemment digne et nécessaire afin que la loi triomphe. Plus aucun match professionnel n'est disputé un 5 mai en France. C'est le récit de la mémoire gravée dans la loi. Alors, il faut savoir que l'intégralité des bénéfices de la vente de l'ouvrage sera reversée au collectif des victimes de Fouriane et à l'ASB92. Je finis cette chronique par les mots de Didier Grassi parce que la mémoire n'a de valeur que si elle s'accompagne d'actes de solidarité et d'un engagement partagé. Moi, je vous engage à lire ce récit qui est profondément touchant et éminemment nécessaire. Merci beaucoup.
Merci Elisa. Elisa que vous retrouvez tous les mercredis et de temps en temps avec des invités sur Radio Corse International. On refait un petit point sur l'histoire en mai avec nos invités et Philippe Cham.
Nous allons parler histoire aujourd'hui avec nos deux invités qui participaient à Histoire en mai, organisée par l'association Artemar, Philippe Perret, qui est ancien professeur d'histoire, et un autre invité, Adrien Genoudet, qui est docteur en études cinématographiques, en art, en histoire visuelle, cinéaste et également écrivain. Adrien, bonjour.
Bonjour.
Philippe, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le cadre d'Histoire en mai, il y a eu des tables rondes. Philippe Perret, vous avez, vous, tenu une table ronde sur les leçons de l'histoire.
Ah ben, c'est tout un programme, hein, les leçons d'histoire. Hein. On fait un usage immodéré dans la vie politique de l'histoire, hein, dans la vie sociale. Souvent, on raconte un peu n'importe quoi. Hein. Chacun croit détenir le sens de l'histoire, hein, et les affrontements sont nombreux. Or, nous, modestement, nous essayons d'éclaircir un peu le problème.
Alors, justement, comment s'articule un petit peu, c'est articuler cette table ronde?
Alors, bon, c'est la tradition d'Histoire en mai. Hein. Histoire en mai, c'est une promenade en ville, c'est aussi l'invitation de nombreux écrivains et des universitaires, hein, des philosophes en particulier cette année. Et c'est une des tables rondes que nous organisons, et cette table ronde, elle aura lieu demain, jeudi 21 mai, hein, à la Bibliothèque Patrimoniale, hein, qui est notre lieu fétiche, hein, et autour d'Adrien et d'autres, hein, bien, on se posera des questions, avec le public, bien sûr.
On retient les leçons de l'histoire, puisque on parle de leçons de l'histoire.
Alors, je ne sais pas, Benedetto Croce, notre cousin italien, j'allais dire, avait l'habitude de dire qu'on les oubliait très vite, hein, qu'il y a des moments, justement, où il y a des séquences où on oublie l'histoire. Hein, mais il disait que ce n'est pas un inconvénient, parce que pendant ces périodes de grand vide, hein, bah, il pensait sans doute au fascisme, hein, eh bien, c'est des énergies qui se remobilisent et de nouveau, on reconstruit l'avenir. C'est peut-être un peu trop optimiste.
Adrien Genoudet, vous avez participé à une table ronde. L'archive, la mémoire visuelle, l'histoire.
Oui, c'est parce que depuis un moment, moi, je m'intéresse beaucoup à la question des archives visuelles, c'est-à-dire la façon dont elles façonnent quelque part un certain imaginaire de l'histoire, comment aussi, surtout, on les aborde. Moi, en tant qu'écrivain, je les aborde souvent par ce qu'elles nous disent et ce qu'elles ne nous disent pas. Donc voilà, l'idée, c'était de s'avancer vers ces images qui nous restent souvent du passé et essayer de savoir un peu ce qu'on en fait, justement, maintenant qu'on est au présent avec elles.
C'est plus facile, visuellement, de retenir l'histoire, pour vous ?
Non, par contre, je pense que c'est peut-être...
C'est complémentaire.
C'est complémentaire, mais surtout, je pense que c'est un très bon moyen de l'interroger véritablement, enfin, d'entrer dans la matière historique, dans les questions que l'histoire nous pose, en fait. Parce que là, il y a souvent la question de la preuve, la question de la matérialité aussi de l'archive, très souvent. L'image, elle est aussi matérielle, elle n'est pas simplement dématérialisée. Donc, dans ce qu'elle nous donne à voir, il y a souvent des questions qui sont hors champ, justement, et c'est très souvent ce qui, moi, m'intéresse quand je me mets à écrire, mais aussi quand je faisais de la recherche à une époque. Ouais.
Alors, justement, ces manifestations comme Histoire en mai, ça peut être très intéressant, justement, pour faire connaître un petit peu ce genre de travail que vous faites, ces travaux que vous faites.
Absolument, c'est toujours, pour moi, de toute façon, un plaisir de participer à ce type d'événement. Parce que oui, je pense qu'on a besoin un petit peu d'élargir le spectre sur les questions historiques, toujours de les ouvrir encore et encore davantage, surtout avec plusieurs types de points de vue que sont souvent ceux des historiennes, des historiens, mais aussi des artistes, c'est-à-dire écrivains et autres, ceux qui s'y mettent en fait aussi face à la matière historique.
Ces archives, elles sont de plus en plus disponibles pour le grand public, parce qu'on garde des archives, mais quelquefois elles sont sous-scellées, on ne peut pas les voir. Aujourd'hui, il y a quand même plus de possibilités d'accès au public.
Évidemment que la façon dont aujourd'hui on a numérisé beaucoup d'archives fait qu'on consulte plus facilement les archives, notamment visuelles, hein, images, etc. Par exemple, le fonds du musée Albert Kahn sur lequel j'ai travaillé est aujourd'hui entièrement disponible en ligne, enfin quasiment entièrement, c'est-à-dire 72 000 images, ce qui est quand même vraiment conséquent, et ce qui est évidemment était impossible encore il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc oui, je pense que nos images personnelles, par contre, c'est un autre problème, nos archives personnelles, je crois qu'on les garde encore pas mal dans les tiroirs, etc. Donc c'est bien de les rendre de plus en plus disponibles, de les montrer, en effet, de les discuter, oui.
Depuis l'instauration de cette manifestation Histoire en mai, vous constatez un regain un petit peu d'engouement pour l'histoire ici sur la région bassiaise et sur en Corse en général ?
Ah ben, l'histoire se porte pas mal en Corse. Hein. Il y a des historiens.
Il y a matière.
Il y a de nombreuses productions. Hein. Il y a des revues. Voilà. Mais Histoire en B a voulu aussi s'élargir au roman historique. Hein. Au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une manifestation centrée sur le roman historique. Parce qu'on a estimé que Alexandre Dumas, le Corse Zévaco, qu'on oublie, hein, Pardaillan, la série, avait permis à des générations de jeunes hein, de découvrir l'histoire. Et on s'est dit, si on invite des romanciers d'histoire, peut-être allons-nous attirer un public un peu différent. Puis la manifestation a évolué, mais nous invitons toujours des romanciers d'histoire.
Alors justement, vous êtes écrivain, cinéaste, quels sont un petit peu vos projets ?
Mes projets actuels, c'est l'année prochaine, je sors un nouveau roman qui se passe à Verdun, qui s'appelle d'ailleurs Verdun Vision, et d'ailleurs qui reprend le titre d'un film de Léon Poirier de 1928 qui s'appelait Verdun Vision d'Histoire. Mais par contre, ça se passe dans les années 2000, justement, dans mon adolescence, au tout début des années 2000, dans un monde plutôt des rêves parties, et où des adolescents dansent véritablement sur les champs de bataille, justement, sur les morts. Donc, un peu de façon de toujours retravailler aussi la question historique, mais là, différemment, en parlant des lieux, parlant de la terre de Verdun à proprement parler. Oh, voilà.
Justement, quand on est romancier comme ça, quand on parle de l'histoire, historique, ça demande quand même beaucoup de travail de recherche pour pas être anachronique.
Oui, alors déjà je me définis pas trop comme romancier historique, je sais pas trop ce que c'est. Ce que je sais, c'est que j'utilise en tout cas en effet la question souvent des archives ou de la matière historique pour aller à la rencontre d'un récit ou des personnages et autres. En effet, par contre, je viens de l'histoire, je viens d'une formation universitaire en histoire, et donc les réflexes sont là, et le désir de travail, de toute façon, de l'archive, s'intéresser longtemps, en fait, à la matière historique dans laquelle on va se plonger, est très important pour moi. Par contre, on en fait évidemment jamais assez non plus, c'est-à-dire que c'est toujours difficile d'être en absolu contact avec une période qu'on n'a pas vécue, donc on écrit quand même évidemment avec des trous, avec des manques. Parfois, c'est même finalement ce qui va être le plus intéressant, je crois, dans la part romanesque, justement.
Nos invités aujourd'hui étaient des historiens de l'association Artemar à l'occasion de donc cette manifestation Histoire en mai. Adrien Génoudet, merci.
Merci.
Philippe Peretti, merci.
Merci, Philippe.
Et puis toujours dans le cadre d'Artemar, eh bien nous étions partis à Venaco dans le cadre donc de Histoire en mai et le train d'Histoire en mai. Nous avons rencontré Dominique Godin, qui est la présidente de l'association vénacaise Girandou Libre et également l'éditeur Gilles Nadeau. Dominique Godin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la présidente de cette association Girandou Libre. Présentez-nous là en quelques mots.
Alors Girandou Libre est une association qui s'occupe de la bibliothèque de Venaco. Donc on s'est constitué en association et nous allons fêter les 10 ans l'année prochaine. Donc vous voyez, c'est de 2017 et depuis, c'est une bibliothèque de prêt au départ et puis et de plus en plus nous animons culturellement le village et le bassin aussi. En organisant des manifestations littéraires, parce que bon, notre fond de boutique, ce sont quand même les livres. Mais le prêt ne suffit pas. Il faut vraiment apporter autre chose au village, et ça, on s'y attelle de façon assez avec persévérance, voilà. Et puis, les retours sont bons, et il y a une bonne équipe aussi, donc. Girandou Libre se porte pas trop mal, voilà.
Alors vous disiez que c'était une association qui avait 10 ans. Comment est venue l'idée ? Il y avait une demande, il y avait un besoin dans le village ?
Je crois que, à l'époque, moi je n'habitais pas le village encore. À l'époque, c'est la pharmacienne Marie-Madeleine Imperio qui, avec deux ou trois femmes du village, parce qu'elles avaient envie de parler littérature, de faire circuler des livres. Bon, et donc c'est parti de là. Et tous les livres que nous avons dans notre fonds de bibliothèque, qui est vraiment intéressant, qui est assez complet, viennent de dons. Bon, actuellement, quand même, on essaye d'avoir aussi, chaque année, des livres récents, des parutions récentes, de façon à renouveler un petit peu le fond. Et c'est parti en fait de 3-4 femmes qui, dans le village, avaient envie de faire quelque chose et autour du livre, voilà.
Aujourd'hui, vous parliez de fond. Aujourd'hui, la bibliothèque, elle est riche de combien d'ouvrages?
Ouf, là, je ne pourrais pas vous le dire, mais nous avons un fonds corse qui est assez bien nourri. Nous avons un gros fonds de polar. Bon, le polar, c'est ce qui se prête le plus, finalement. On a un bon fonds de littérature générale, roman, vraiment avec de bons auteurs. Et puis un fonds de bibliographie, d'histoire aussi, qui est intéressant. En plus du prêt du livre et des manifestations culturelles, j'ajouterais que nous faisons partie du prix des lecteurs de Corse. Donc la bibliothèque en tant que telle peut faire des propositions pour la liste des livres qui seront proposés pour le prix des lecteurs de Corse. Et donc, et nous votons pour ensuite, enfin nous les lisons, les livres sélectionnés, et donc on se réunit assez souvent pour discuter des livres, bon, puis de partager aussi nos coups de cœur, parce qu'on ne lit pas que les livres sélectionnés pour le prix des lecteurs de Corse. On a aussi, une fois par mois, un club de lecture, de lecteurs, qui partage ses coups de cœur et voilà, et nous fait découvrir d'autres horizons de livres.
Vous avez des relations avec les autres bibliothèques, les médiathèques?
Alors, nous avons quelques relations avec la médiathèque de Corté. Quelquefois, nous leur empruntons des livres. Et nous avons des relations beaucoup plus suivies avec la bibliothèque de Pré régionale, la BDP, parce que lorsque nous avons un thème particulier, on fait appel à la BDP pour nous fournir des ouvrages sur le thème. Voilà. Nous avons des relations avec Follet, lui aussi, par l'intermédiaire de Françoise Ducré, qui c'est grâce à elle, en fait, qui a appris à nous connaître qui nous a fait intégrer le circuit des propositions culturelles de la collectivité. Et donc, il y a trois ans, notre municipalité, notre maire, a passé une convention avec la collectivité de façon à ce que nous puissions, nous avons passé une convention avec la mairie, qui a passé une convention avec la collectivité, ce qui fait que nous avons accès aux propositions culturelles de la collectivité. Et là, ça change tout. Parce que on choisit quatre animations ou spectacles par an. Et ça permet une ouverture exceptionnelle par rapport aux propositions culturelles qu'on pourrait apporter au village.
Oh, justement, quel est le rythme des animations? Quels sont les principaux rendez-vous que vous proposez?
Alors, les principaux rendez-vous. Tous les deux ans, nous organisons au mois de juillet un colloque historique sur le thème des femmes. Les femmes de Corse et les femmes corses. Donc, et c'est Michel Vergi-Franceschi, que tout le monde connaît, qui est notre directeur scientifique et qui se charge, sur les thèmes que l'on choisit ensemble, de contacter les intervenants et les faire venir. Voilà, ça c'est tous les deux ans. Et donc l'année prochaine, pour nos 100 ans, ce sera le quatrième colloque. Donc déjà, il y a une habitude qui s'est prise, et ça c'est intéressant. Et c'est toujours passionnant, c'est vrai. Nous avons, depuis l'année dernière, nous organisons le soir des séances de cinéma en plein air, ici même, sous le chêne. Bon, cette année, ça sera la deuxième saison, et c'est vrai que c'est surtout l'été, forcément, puisque c'est à 9h du soir, 9h30, voilà. Nous avons aussi, nous recevons des auteurs. Nous avons reçu, par exemple, un auteur qui avait fait une biographie du chauffeur de Marcel Proust. Vous voyez, nous avons eu il y a 2 ans un de nos adhérents qui nous a fait une conférence sur une réédition qu'il venait de terminer des Pensées de Blaise Pascal. Nous avons eu aussi Monsieur Arnaud qui est venu nous parler de son livre sur sa famille. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, au fil des opportunités qui se présentent. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore ?
Et vous avez ce rendez-vous important avec Artemar aussi.
Alors, et ce rendez-vous, alors, c'est la 4e fois qu'ils viennent. Artemar, et ça, c'est une ouverture très intéressante et fantastique parce que ça nous a rapproché d'une autre association finalement. Et puis, bon, c'est sympathique. C'est toujours, ils viennent toujours pour la Pentecôte. On a toujours eu beau temps. Donc voilà. Alors, on les accueille de façon originale, généralement. La première année, on leur a fait une manif en gare de Venaco. Ils hésitaient à descendre du train. La seconde année, nous avons reçu Coluche, qui venait d'être élu président de la République. Ça a été, et qui venait rendre visite à son ami Leonardo de Venaco. Bon. L'année dernière, c'était le banquier romain. Et cette année, c'est une autre surprise. On va se promener dans Venaco en leur racontant un petit peu certains moments de la vie du village que tout le monde ne connaît pas. Donc, ça, c'est la surprise pour cet après-midi.
Venaco, c'est un village qui est riche. Il y a plusieurs églises, il y a des monuments.
Venaco,
on passe souvent devant, peu de gens s'arrêtent, mais en fait, c'est un village qui mérite qu'on s'arrête.
Qui mérite qu'on s'arrête. Et en fait, c'est la réunion de 3 villages. Quand vous lisez les auteurs anciens qui sont passés à Venaco, ils vous parlent toujours de Serraggio de Venaco. Ils ne parlent pas de Venaco, de Serraggio de Venaco. Et à un moment, ils se sont réunis avec le village de Campovecchio, qui est actuellement un des quartiers de Venaco, qui est sur la colline. Bon. Et puis plus tard, Lugo de Venaco est entré dans le trio là. Bon, petit à petit, en fait, il y a eu une réunion de tous les petits villages. Et comme ils avaient chacun leur église, on a des églises partout. On a l'église de Saint-Michel, on a l'église de Saint-Antoine, on a Saint-Roch à Campovecchio. Bon, et c'est vrai que alors pourquoi est-ce que ça s'appelait Venaco et non pas Serraggio ou Lugo ou Campovecchio? C'est que le coin faisait partie de la Pieve de Venaco. Donc, ils ont choisi le nom de la Pieve.
Quels sont les projets?
Alors, cette année, nous avons un très gros projet. Au mois de juillet, le dimanche 19 juillet, avec un partenariat avec l'Association des Arts et Lettres de France, et par l'intermédiaire de la déléguée corse de cette association. Et donc, nous avons monté une journée de colloque, finalement, qui sera dédiée à l'archéologie de l'absence et qui... Alors, c'est un thème qui peut paraître un peu curieux, un peu ardu, peut-être un peu mystérieux, mais qui est très simple. L'absence, c'est le vide, mais le vide plein. Parce que c'est la trace, ce sont les traces, ce sont les empreintes, ce sont les, alors, qu'elles soient généalogiques, qu'elles soient, dans les pierres, qu'elles soient dans les maisons, vous voyez, bon. Et ça va réunir, ça va être
générationnel.
Il y aura tous les arts. Il y aura des peintres, des sculpteurs, des photographes, architectes. Il y aura un documentaire sur Ugo Colonna. Il y aura une présentation de livres sur le thème. Bon, et ça, bon, je me suis chargée de ça. Il y aura donc, présentation d'œuvres, il y aura une exposition en fait, et des conférences. Et nous aurons Stéphane Orsini en particulier, nous aurons Alice, je ne sais plus comment, une Alice architecte, nous aurons une traductrice japonaise, qui viendra nous faire une intervention sur le ma japonais. C'est le vide qui est plein. Et ça, c'est une notion très particulière et très, très intéressante. Voilà. Et elle nous fera aussi une démonstration d'art floral japonais, l'ikebana. Et qu'est-ce qu'il y aura encore comme conférence? Ouais, c'est à peu près tout. Mais ça va faire une journée très intense et très intéressante qui se passera au stade. Hein, voilà, on sera au grand air et on sera au stade. Voilà. Et ça, ça va être, c'est le gros, gros projet. Un autre projet aussi au mois de juin pour les enfants, alors. Nous faisons venir du continent une éditrice qui est en même temps autrice et qui viendra animer des ateliers pour les enfants de l'école, du regroupement scolaire de Venacourt et Ventosa. Ça, ce sont les deux grands. Et notre rendez-vous annuel au mois de septembre-octobre, le polar. Le polar sur la place. Et puis, ben, peut-être des surprises dans le courant de l'été. Voilà. Et les quatre spectacles ou animations de la collectivité.
Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Gilles Lado, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez présent donc à cet épisode Venaké de Histoire en mai pour présenter un petit peu votre maison d'édition. C'est une maison d'édition qui est déjà assez ancienne. C'est une maison d'édition familiale, en fait.
Oui, en quelque sorte. C'est mon père qui l'a fondée en 1977. Et donc, on fête en 2026, ben, c'est 50 ans. C'est 50 ans. Moi, j'ai repris la maison de mon père à sa mort en 2013. Moi, je viens de la télévision. J'étais un documentariste. J'ai fait beaucoup de choses. Et je suis venu petit à petit épauler mon père qui avait à l'époque, outre sa maison d'édition, un journal qui s'appelait La Quinzaine littéraire et qui chroniquait toute l'actualité littéraire de l'époque. Donc, ça a commencé de 1966 jusqu'à l'année 2013. En 2013, donc, j'avais numérisé l'ensemble des articles de La Quinzaine littéraire, ce qui représente en quelque sorte une sorte d'encyclopédie par le livre de toute l'histoire littéraire, politique, sociale, bien sûr de France, d'Europe, mais aussi du monde. Et en reprenant en 2013 l'amendement les éditions, j'ai essayé de perpétuer un petit peu son idéal d'édition, d'éditeur, c'est-à-dire sélectionner les textes pour leur qualité d'écriture, pour l'intérêt des thématiques qu'ils développent. Et je pense que nos choix ont été pas toujours couronnés de succès. La vie d'un livre en librairie, c'est une vie de 3 mois. Si on ne trouve pas les échos dans la presse ou dans le public sur les livres, et en particulier lorsque nous sommes spécialisés dans la publication des premiers romans, alors donc les gens ne sont pas connus, ne sont pas célèbres, donc les ventes sont difficiles. Bref, c'est un métier compliqué. Être éditeur indépendant aujourd'hui, ça implique quand même être capable de perdre un peu d'argent.
Alors, dans les publications, il y a beaucoup également d'auteurs entre guillemets étrangers.
Oui, il y en a quelques-uns, enfin pas énormément, parce que publier des auteurs étrangers, c'est une mise de fonds hein, pour un éditeur indépendant, c'est important. Et il nous est arrivé, donc justement, dans cet après-midi, Luis Vicente Mora, qui est un écrivain espagnol, qui est très reconnu dans son pays, eh bien, vient de publier pour la première fois en français son œuvre, Mitel Europa, Les carnets secrets de Redo, qui est un roman magnifique, qui nous a beaucoup impressionnés. Et qui a trouvé son public. On a vendu pas mal.
Vous avez aussi un auteur corse, Gilles Zerlini. Voilà. Comment s'est fait un petit peu la rencontre, la sélection?
Elle s'est faite tout simplement par la poste. Nous avons reçu le manuscrit. Nous l'avons lu. Et dès les premières pages, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un véritable écrivain. Et dès que j'ai terminé son manuscrit, ben je lui envoyais un mail et je lui ai téléphoné pour lui dire qu'on retenait son bouquin. Et ça a été suivi de deux autres publications. Hein. Alors donc, ce premier bouquin, c'était Épuration. Dans Épuration, c'est une histoire familiale, puisqu'il s'agit de son grand-père qui avait survécu à la guerre de 14 et qui, au moment de la libération de la France en 1945, se fait exécuter par sans procès par des jeunes excités qui se croyaient... une histoire lamentable, hein, comme ça, que Zélini raconte très très bien et qui est une histoire très touchante. Et alors, il a récidivé par la suite avec un deuxième ouvrage, Lettre des fantômes, qui est là le récit d'une trajectoire de son père qui a été engagé pendant la guerre d'Algérie et qui a assisté au massacre de Philippeville et qui, dans ce livre, donc, Gilles Zerlini nous restitue un pan d'une histoire oubliée, qu'on a même soigneusement d'ailleurs vouloir passer sous silence. Et c'est une chose très impressionnante. J'espère que vous allez pouvoir lui poser les questions sur son bouquin. Et alors, troisième titre, là justement, Guyane, qui est un bouquin qui démarre sur un hymne sur la Corse ancestrale, qui m'a beaucoup touché, parce que il se trouve que malgré le nom que je porte, qui est un nom charentais, le nom de Nado, eh bien, il se trouve que ma mère était d'origine corse, enfin elle est corse, hein, tout bêtement. Ça m'a parlé de mes racines, ce bouquin. Et j'étais très touché des débuts du récit de Guyane, c'est le titre de cet ouvrage, qui est un hymne à l'esprit corse, hein, quand même, très touchant.
C'est important ce genre de manifestation pour un éditeur?
Bah, écoutez, ça, c'est une chose qui nous encourage à poursuivre notre travail. C'est un travail très difficile, éditeur. Quand ça marche, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein. Ce qu'on dit, les marges de l'éditeur, ça représente 8% d'un chiffre d'affaires. Hein. Quand ça ne marche pas, ce qui est le cas le plus courant, eh bien là, ça devient très difficile. On peut dire que la vente des livres, à partir de mai, jusqu'à septembre, ça se termine. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne de la littérature. Alors, évidemment, il y a les livres pour la plage. Alors, ça, bon, cela, il y a des éditeurs spécialisés pour ça. Mais pour nous qui sommes engagés en littérature, c'est une affaire assez difficile. Il faut attendre septembre, octobre pour espérer vendre encore quelques bouquins. Et puis, la fin de l'année est en général assez difficile. Bref, donc des manifestations comme celle-là, oui, ça nous rassure, ça nous permet de nous faire connaître, parce qu'il n'est pas facile pour les éditeurs indépendants, même quand ils sont relativement reconnus comme le nôtre, hein, d'exister.
Gilles Nado, merci beaucoup.
Ouais, merci à nos invités d'Histoire en mai. Et puis, on se refait un petit point avec Philippe Jam sur les titres de l'information de ce jour.
Après qu'un saisonnier de 30 ans est décédé des suites de plusieurs coups de couteau à Calvi, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Un suspect d'une trentaine d'années, saisonnier lui aussi, a été placé en garde à vue. Deux hommes en situation irrégulière, soupçonnés de vol à l'arraché, ont été condamnés hier à des peines de 30 mois et 4 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bastia et d'interdiction de séjour en France. Dans le dossier d'une tentative d'extorsion avec arme à Porto Vecchio en 2020, la cour d'appel de Bastia a acquitté les trois prévenus des faits de tentative d'extorsion avec arme. Deux d'entre eux ont toutefois été condamnés pour des faits annexes. Et puis les fédérations de chasseurs de Haute-Corse et de Corse du Sud, ainsi que leur fédération régionale, inquiets du projet de construction de 48 éoliennes non loin du Cap Corse. Météo, c'est un temps chaud et bien ensoleillé en ce mercredi.
Merci Philippe, et rendez-vous demain, et n'oubliez pas votre crème de bronzage. On arrive à la fin de cette matinale, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, hein, restez pas trop au soleil quand même, hein. Protégez-vous un tout petit peu, et on se retrouve demain matin. Qu'est-ce que vous en dites? On fait comme ça? Tieni de volte, a domani.
Bonjour, salut à tous.
All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
Si vous êtes...